Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouane.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
À Tombouctou, les femmes sont porteuses de solutions pour leur autonomisation. C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. La crise sécuritaire qu'a connue le Mali depuis 2012 a véritablement impacté l'avancée des droits des femmes de Tombouctou à l'autonomisation financière, l'égalité de sexe, à la participation dans la politique. À ces difficultés s'ajoutent les pesanteurs socio-culturelles. Qu'est-ce qui explique cette situation particulièrement à Tombouctou? Les disparités entre l'homme et la femme ont-elles évolué de la crise à nos jours? L'écart est-il énorme? Quels sont les obstacles? Quelles peuvent être les solutions? L'autonomisation des femmes, égalité 50-50, est-il possible à Tombouctou? Le Grand Dialogue délocalisé dans la localité s'intéresse à ces sujets avec nos invités. Il s'agit de Fatal Moudou Mahaman, chargé de communication à la CAFO régionale de Tombouctou, Fadi Walet Mohamedine, présidente de l'association Femmes Artisanes de Paix. Nos tentatives pour avoir une représentante de la direction régionale de la femme sont restées vaines. À la présentation, je suis Mirana Kilomega, invité auditeur, téléspectateur. Vous connaissez sur 85 radio et 3 télévisions partenaires. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Nous allons commencer avec vous, Fatal Moudou Mahaman. Dites-nous aujourd'hui comment se portent les femmes de Tombouctou.
Ok, merci pour la question, Imran. Je salue nos téléspectateurs et nos auditeurs. Les femmes à Tombouctou, je dirais, se portent bien. D'autant plus qu'il y a vraiment une relation étroite entre les autorités administratives et les femmes. Et les femmes aussi se battent, même s'il y a des failles, les femmes continuent vraiment de se battre pour leurs droits. Elles continuent de se battre pour leur épanouissement et pour leur autonomisation.
De la crise à aujourd'hui, si vous faites une comparaison, comment se porte aujourd'hui la femme de Tombouctou après la crise de 2012 qu'a connue le pays?
Ok, merci bien pour la question. Bon, je peux dire que la femme, elle se porte mieux, mais comme je l'ai dit dans mes propos, il y a des failles, d'autant plus que la crise a laissé vraiment des séquelles et ces séquelles continuent vraiment de poursuivre ces femmes. Il y a des séquelles des violations des droits de l'homme que les femmes, je dirais même tout Tombouctou a subi. Ces séquelles-là sont présentes. Et il y a aussi les pesanteurs socioculturels, comme vous l'avez dit dans votre introduction, vraiment, qui freinent les femmes à aller dans certaines instances. Et les lois aussi, qui ne sont pas, je ne dirais pas, ne sont pas respectées, mais qui ne sont pas prises même par les femmes comme les lois qui leur appartiennent pour vraiment avoir leurs droits. On doit vraiment faire un retour vers ces lois pour mieux les comprendre et pour mieux chercher nos droits en tant que femmes. Puisqu'il y a beaucoup de lois aujourd'hui qui donnent vraiment la chance aux femmes de participer à des instances de prise de décision et d'être bien positionnées pour vraiment donner leur avis par rapport à l'avancement du pays.
D'accord. Alors, Fadi Walet Mohamedine, vous êtes la présidente de l'association Femmes Artisanes de Paix. Dites-nous, peut-on dire que les femmes de Tombouctou s'épanouissent aujourd'hui?
Oui, merci bien et bonsoir à nos téléspectateurs et auditeurs. Et Imran, les femmes se portent merveilleusement bien parce qu'il y a une grande avancée de 2012 à nos jours. Avant la crise, il y a peu de femmes qui sortaient même, je dirais, des maisons. Mais de nos jours, aujourd'hui, les femmes sortent, les femmes sont sensibilisées, les femmes sont informées. Les femmes d'aujourd'hui ne sont plus les femmes que nous, on a trouvées étant enfants. Pourquoi je le dis? Parce que la femme avant aujourd'hui était gardienne de la maison. Et les femmes d'aujourd'hui, même comparativement à l'éducation d'hier à aujourd'hui, je parle d'instruction dans les écoles, les femmes aujourd'hui sont plus instruites qu'avant. Le niveau est plus élevé qu'avant. La femme d'hier, au niveau des titres, c'était la 9e, au plus le bac. Mais aujourd'hui, les femmes vont vers les universités, les grandes universités, que ce soit les universités nationales ou internationales, les femmes sont représentées aujourd'hui. Que ce soit les instances de prise de décision, les femmes sont aussi représentées dans de ces sens. Parce que, comme l'a dit Fatal Moudou, elles sont sensibilisées, elles sont informées, que ce soit sur les lois, que ce soit sur les conventions, elles ont la notion.
D'accord. Nous animons ce débat en plein air, c'est pourquoi vous entendez les bruits qui sont autour de nous. Vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les statuts ont changé du fait que vous dites que les femmes que vous avez connues auparavant ne sont plus les femmes que vous connaissez aujourd'hui?
Oui, les statuts ont véritablement changé. Comme je l'ai si bien dit, des études aux postes nominatifs et électifs. Les femmes avant... De parler des élections, même, c'était vraiment difficile parce que les femmes, nous sommes les électeurs. C'est nous qui partons remplir les urnes, mais se positionner dans les postes de responsabilité et des postes électifs, c'était pas facile pour la femme, pour ne pas être stigmatisée. Parce que les réunions se font tardivement. On a eu à questionner des femmes leaders, à les rapprocher pour demander comment est-ce qu'elles ont fait. Et elles sont aujourd'hui des sources d'inspiration pour nous, les jeunes filles, parce qu'on s'inspire de leurs expériences pour pouvoir pallier à ces stéréotypes et aux pesanteurs sociaux.
Alors, comment les femmes font aujourd'hui pour avoir accès aux ressources de revenus?
Bon, les femmes font vraiment, celles qui ont étudié sont dans les postes de responsabilité. Celles qui n'ont pas étudié ont des métiers transférés, transfert de compétences de génération en génération. Que ce soit... et faire des marchandises, payer des marchandises, faire des transformations agroalimentaires, faire des reventes du pain, parce que dans les familles, c'est générationnel. Quand la maman fait du pain, automatiquement, il y aura un membre, que ce soit une fille ou un homme, qui peut faire ce pain. Et en plus de cela, nous avons trouvé nos mamans en train de faire cela et c'est devenu héréditaire. Mais au-delà de ça, les femmes essayent quand même, après les études, quel qu'en soit alpha, d'essayer de mettre en place que ce soit un commerce pour être autonome. Parce qu'avant, les femmes n'étaient pas du tout autonomes. Elles dépendaient des hommes. C'est le revenu, c'est le messier, parce qu'il est le chef de la famille, il est responsable de tout. Mais aujourd'hui, les femmes les aident. Au fait, nous sommes complémentaires aux hommes. Et beaucoup de femmes expliquent cela, parce que quand on dit égalité de chance, il y a beaucoup de gens qui misent et qui ne comprennent même pas ce qui est le sens, parce que et pour eux, c'est un préjugé. Ça veut dire que la femme est égale à l'homme dans la force. On n'a pas dit ça. On n'est pas égal aux hommes comme ça. On veut, comme j'ai étudié, Imran a étudié, j'ai la chance d'aller en université, Imran a la chance d'aller en université. Quand on finit les études, Imran a la chance d'avoir un poste de responsabilité, je dois avoir ces chances de poste de responsabilité. Parce que les gens analysent, ils se disent que moi, je ne pourrais pas partir en brousse parce que je suis femme ou je suis fille, mais Imran, il est apte à partir en brousse, il peut vivre beaucoup de choses que moi, la femme, je ne me permettrai pas de vivre. Alors, ces préjugés ne sont plus. La femme, dans sa tête, dans sa mentalité, elle est un être humain comme tous les autres. Nous sommes hommes avec grand H. Il n'y a pas de différence au fait. Hommes avec grand H. Nous sommes complémentaires. On n'est pas rivaux, on n'est pas rival.
D'accord. Fatouma Talmoudou, Fadi disait tout à l'heure que les femmes qui ont étudié sont dans des postes de responsabilité, pendant que celles qui n'ont pas étudié sont dans des activités de revenus, génératrices de revenus. Est-ce que toutes ces femmes-là qui n'ont pas allé à l'école aujourd'hui ont des activités de revenus dans la région de Tombouctou?
Alors, merci pour la question. Donc, les femmes qui ne sont pas allées à l'école, et si ces femmes vraiment prennent le courage et la détermination de se trouver une activité qui va vraiment leur permettre d'être autonomes, cela les aide. Mais je ne dirais pas que toutes les femmes aujourd'hui ont vraiment une activité qui leur permette d'être autonomes. Il y a toujours des failles, comme je l'avais dit. Il faut que les sensibilisations continuent, d'autant plus qu'il y a une mentalité qui est calquée dans la tête de certaines femmes. Si je ne suis pas allée à l'école, ça veut dire que je dois m'écarter. Alors que si on fait une analyse, on peut trouver que les femmes qui ont boosté même l'économie, je peux dire, sont des femmes qui ne sont pas à l'école, mais c'est des femmes entrepreneurs qui ont mené des activités génératrices de revenus. Et ces activités leur permettent de prendre d'autres femmes et filles, leur faire travailler et les payer. Cela booste l'économie de la région, je peux dire. Donc, il y a certaines femmes qui sont toujours dans les foyers, parce que quand on parle, on va parler seulement de ces milliers, mais il y a des milliers reculés. Les villages, au niveau des villages, il y a ces pauvres femmes-là qui sont là-bas, d'autres ne font rien. Elles sont dans les maisons, elles préparent. Elles sont toujours vraiment, comme elle l'a dit, les femmes éducatrices dans les familles. Donc, ces femmes aussi, nous avons besoin que ces femmes aussi soient sensibilisées pour qu'elles aussi puissent défendre leur cause, ne serait-ce qu'en faisant une petite activité génératrice de revenus, un petit commerce ou créer une petite entreprise. De jour en jour, ça va grandir et d'autres femmes vont en bénéficier.
Vous avez parlé de failles, de pesanteurs socioculturels. Quelles sont, selon vous, ces préjugés, ces pesanteurs socioculturels qui pèsent sur les femmes de la région de Tombouctou aujourd'hui?
Ok, merci bien pour cette question. Et si je souhaite de répondre à cette question pesanteur socioculturel, Tombouctou est une ville culturelle. Du coup, si je prends l'exemple, si une réunion s'organise et que moi, en tant que femme, jeune fille, je viens entre des hommes, je prends la parole parce que le cas m'est arrivé beaucoup de fois. Quand je commence à parler, les gens vont me regarder d'une autre façon. Du coup, leur regard même va me faire peur. D'autres passent même à dire « c'est la fille de quelle personne ?»
C'est quoi la culture à avoir dans ça, selon vous? Quand vous dites que Tombouctou est une ville de culture, c'est la raison pour laquelle quand vous, en tant que jeune femme, vous venez dans une réunion, les gens vont vous regarder d'une façon. En quoi la culture en a à voir dedans?
Oui, la culture tombouctienne, elle est différente, je dirais, des autres cultures. Nos façons de nous habiller, nos manières même de parler, parce qu'on nous apprend socialement que quand une femme parle dans un public où il y a des hommes, elle ne doit pas hausser le ton. Ça, c'est déjà quelque chose qui est social et culturel chez nous. Quand une femme rentre dans un lieu où il y a beaucoup d'hommes, elle doit se couvrir. C'est des choses qui sont culturelles. Alors que si je porte mon pantalon et mon body, je ne suis pas mal habillée chez d'autres. Mais contrairement, quand je suis dans un public où, vous m'excusez, il y a des marabouts, des leaders religieux, je dirais, des vieilles personnes, mes grand-mères et autres, elles vont dire « Fatal Moudou, aujourd'hui là, ça ne va pas ». Alors que ça va, j'ai tout simplement changé de look. Il y a ce côté-là qui nous freine souvent. Et quand vous essayez de prendre même la parole, si quelqu'un parle, vous m'excusez du terme, si quelqu'un donne une idée et que vous prenez la parole pour contredire ce que, si c'est une vieille personne, vous contredisez ce qu'il dit, mais on va demander celle-là, c'est la fille de qui? Alors que celle-là ne fait que donner ses idées. Donner son idée ne veut pas dire, vous m'excusez du terme, qu'on est mal éduqué ou bien autre chose. Il y a ces pesanteurs socioculturels vraiment qui pèsent sur les femmes, même si d'autres refusent de les dire. Il y a ce côté culturel qui joue même sur l'épanouissement et l'autonomisation de ces femmes-là.
Alors comment font-elles aujourd'hui pour se préserver et résister à cette pression sociale?
Alors, il y a des femmes qui ne refusent pas. Et vraiment, elles serrent bien les ceintures à travers les informations, en essayant aussi d'être, je dirais, très éduquées. Parce que quand on est dans un milieu, en essayant de s'adapter, je dirais, quand on est dans un milieu, il faut s'adapter aux réalités de ces milieux. Quand on s'adapte, on peut y arriver. Il y a une parfaite, bonne collaboration entre vraiment les femmes, les autorités, les leaders religieux, mais chacun connaît sa place, je dirais comme ça, chacun connaît sa place et chacun sait comment s'y prendre. Et quand on parle dans un lieu où il faut vraiment s'habiller de telle ou telle sorte, ça aussi, chacun fait comment faire. D'accord. Il n'est pas vraiment donné ici à une femme mariée de s'habiller en pantalon et body et porter mèche et aller s'arrêter devant les leaders religieux et parler. Le monsieur là, vous m'excusez du terme, il n'est pas là. Surtout sa femme, laisser sa femme comme ça. Donc il y a ces problèmes-là.
D'accord. Fadi, vous êtes de l'association des femmes artisanes de paix. Quelles sont les précisions auxquelles vous faites face en longueur de journée?
Bon, je vais d'abord rebondir sur ce que Fatoumou vient de dire. Et les femmes ont parvenu à braver ces obstacles et ces préjugés parce que beaucoup de religieux ont essayé de sensibiliser leurs pères parce que certains se couvrent derrière la religion pour dire que la femme ne devrait pas sortir. Mais avec les sensibilisations de ces mêmes religieux, on sent que la femme a sa place dans la société. Et la femme, elle doit être présente parce que son avis compte. Les grands-pères et grands-mamies disent « la nuit porte conseil ». On a évoqué ces sujets. Au fait, c'est une fois que l'homme est retourné à la maison, il discute avec ses femmes, il change des idées, il apporte de nouvelles solutions novatrices. Et en plus de cela, comme Fatoumou l'a si bien dit, les femmes sont adaptées à la culture. Tout ce qu'on fait, on le fait dans le strict respect de nos cultures, nos valeurs, nos us et coutumes. Et c'est ce qui a permis aux femmes d'être là où elles sont. Et les réunions tardives, les voyages de tout instant, vraiment, ce sont des choses auxquelles nos communautés ne sont pas habituées avant. Ce sont des réalités qui sont nouvelles chez nous. Et c'est vraiment, c'est par la sensibilisation, la communication avec nos maris, avec nos papas, avec nos parents, qu'on parviendra à être des femmes autonomes, au fait. Et à changer de mentalité. Et c'est par nos comportements, au fait. On doit être exemplaire pour donner aux nouvelles générations l'opportunité que si moi, dans tout mon parcours de leadership, j'ai respecté toutes ces valeurs, les us et coutumes, je laisse la place à la génération future. On va croire en cette génération future. Et ça va permettre à la génération future de relever les défis que moi, je n'ai pas pu relever. Et c'est par ça qu'on pourra changer vraiment la mentalité. Et vous avez dit les défis et les stéréotypes auxquels nous sommes confrontés. Comme je viens de l'évoquer, le fait de voyager, on dira que la femme, elle est instable. Ce n'est pas une femme au foyer. Elle n'est pas mariable parce que quelqu'un qui n'est jamais là. Et pense que nous, étant au dehors, on n'éduque pas. Alors qu'on peut bel et bien éduquer. Par exemple, la maman qui sort depuis le matin, part au boulot, tout ce qui est son devoir maternel, elle le fait. Elle cuisine. Elle lave ses enfants, elle les amène même à l'école avant de partir au boulot. De retour à 13h, tu vas tout faire pour que la pause, vous preniez la pause en famille. Et ce sont des choses qui sont cruciales chez nous. Et les stéréotypes, comme Fatoumou vient de le dire, parler en public, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas facile. Chez nous, quand vous parlez, automatiquement, tout le monde ne va pas poser la question, mais certains d'entre eux vont se poser la question. Celle-là, c'est qui? Elle vient de quelle famille? Quand vous parlez poliment, on demande parce que ça dépend de votre éducation. Et comme elle vient de le dire, l'accoutrement, ça compte beaucoup chez nous. La femme doit être respectée dans ses pas, dans ses faits et gestes. Et quand vous abordez les gens, il faut les aborder de la plus belle manière pour que vous ne frustrez personne et personne ne se sent indexé dans vos propos. Ça, ce sont des choses qu'on nous éduque depuis le bas âge et on sort avec ça au dehors. Et les stéréotypes, les préjugés. Maintenant, on nous dit, la femme n'a pas droit à être dans un public où il n'y a que homme et femme. Avant l'arrivée des djihadistes, avant l'arrivée des islamistes, on ne doit pas s'asseoir côte à côte parce que vous n'êtes pas mon mari. Vous comprenez? Et ça, ce sont des choses qui freinent le développement. Alors que vous, dans votre mentalité, vous êtes mon frère. Dans ma mentalité, je suis votre sœur. Ça ne gâte rien à ce qu'on soit dans la même réunion. Si mon mari me le permet de partir causer avec mes frères, avec mes aînés, c'est pour acquérir de l'expérience, c'est pour pouvoir
et donner mon point de vue sur quelque chose et apporter ou innover quelque chose. Parce que nous, les femmes, on a cette touche que quand on apporte à quelle que soit l'organisation d'une chose ou quelle que soit la chose, quelle qu'en soit la... Même si c'est une chose difficile à résoudre, quand les femmes sont là, il y aura une solution. Une porte de sortie quand même va s'ouvrir.
Alors, vous intervenez dans le domaine de la paix. Comment vous vous organisez pour rassembler tout le monde malgré ces pesanteurs sociaux, culturels qui pèsent sur vous?
C'est une chose très facile. Parce que, comme je viens de vous le dire, c'est le respect. Nous invitons les légitimités traditionnelles, nous invitons les leaders religieux, nous invitons les femmes, nous invitons les jeunes, nous invitons les femmes. Parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Cette crise qu'a connue le Mali, qui est multidimensionnelle, a laissé des séquelles. On dit que quand la paix n'est plus, il est difficile de recoudre ce tissu social. Et nous ici, nous sensibilisons pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, pour qu'il y ait la tolérance, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la cohésion sociale et pour qu'il y ait le vivre ensemble. Et qui est de mieux placé pour prêcher cette paix que les religieux? Nous, on vient en appui avec notre petite expérience. Nos leaders coutumiers sont les premiers responsables chez nous ici. Et ce sont eux qui, quand il y a un conflit, ce sont eux qui interviennent automatiquement parce que nous ne sommes pas des gens autant modernes que ça, ou que c'est la justice qui sépare les gens, non. Chez nous, c'est les cadis, c'est les marabouts, c'est les érudits, c'est les chefs des quartiers. Ce sont eux qui sont là pour coudre les tissus sociaux. Et les femmes sont des sensibilisatrices, des communicatrices, des médiatrices dans ces rôles.
Comment vous faites pour avoir des ressources financières dans vos organisations?
Ce qui est chose très difficile, surtout en cette période. Nous faisons des activités selon nos moyens parce qu'on n'a pas de partenaire financier. On a eu juste un seul partenaire que je me permets de remercier, des partenaires, que ce soit nos autorités régionales et locales. Nous avons aussi IMRAP et WILDAF qui nous appuient. Nous avons Interpis et AD2 qui nous facilitent des dialogues communautaires et autres, qui permettent des conférences, débats sur la culture de la paix qu'on a eu à faire. Et nous remercions infiniment nos autorités pour leur appui. Parce qu'on ne peut pas vivre, je pourrais dire, on ne peut pas organiser une activité là où il n'y a pas des autorités. S'ils sont là, c'est une touche, je dirais, sont cruciales pour les activités parce que ça permet d'avoir la confiance et de renouer les liens entre eux et nos communautés.
D'accord. Fatal Moudou, dites-nous, au niveau de la CAFOR régionale, quelles sont les activités que vous menez en faveur de la femme pour son autonomisation?
Ok, merci beaucoup pour la question. Donc, au niveau de la CAFOR, c'est vraiment, la coordination, la reine mère même des associations féminines. Donc, nous menons des activités de sensibilisation, notamment pour vraiment faire connaître aux femmes leurs droits et devoirs. Surtout, nous avons eu à sensibiliser sur la loi 052, la résolution 1325. Et au niveau aussi côté religieux, puisque nous travaillons vraiment en étroite relation avec nos religieux, puisque on nous parlait des déclarations universelles des droits de l'homme. Il y a aussi la déclaration universelle des droits de l'homme au Caire. Il y a l'islam aussi qui donne vraiment certains droits à la femme. Avant, nous les ignorons, mais quand on était à table avec nos religieux et avec ceux qui ont étudié la DIDH, nous avons compris que la religion, tous les droits que DIDH donne à la femme, la religion l'a donné à la femme avant DIDH. Il suffit juste de chercher.
Quand vous parlez de DIDH, ça veut dire quoi?
Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mm-hmm. C'est de ça que je parle. Donc, avant cette Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme au Caire, ça c'est pour l'islam. Et au temps du prophète même, il y a certains droits qui sont octroyés vraiment à la femme qu'avant nous les ignorons. Je dirais la crise là, Le conflit n'est pas souvent mal en soi, ça nous permet d'apprendre certaines choses. C'est pendant cette crise, après cette crise, que nous avons eu diverses sensibilisations qui ont fait que nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris qu'en tant que musulmans même, avant on ne connaissait pas nos droits, certains de nos droits, mais après on a compris certains droits qu'on croyait même étant des choses que quand on le fait, on va à l'encontre.
Lesquels?
Mieux vaut ne pas dire certaines, mais je peux donner un exemple. Et avant, on nous disait que préparer pour son mari est une obligation, alors que c'était juste une obligation culturelle. La religion elle-même ne te dit pas que tu es obligé de préparer pour ton mari si tu es malade, mais d'autres se cachent sous cette même religion. Pour dire, ah, même si madame est malade, vous m'excusez du terme, si je viens, si elle ne prépare pas, je la tape. Mais cette même religion nous a appris que vraiment, quand madame, ça ne va pas, vous, messieurs, vous pouvez préparer pour lui, ça ne fait rien. Mais il y a cette culture calquée surtout au niveau des têtes de nos jeunes. Si madame ne prépare pas, je viens, je la tabasse. La femme ne doit même pas être frappée. Mais on voit des hommes qui, vous m'excusez, qui frappent leurs femmes. On dirait que ce n'est pas des humains. Donc, ces sensibilisations nous ont permis vraiment de comprendre beaucoup de choses. Au niveau de la CAFO, ne serait-ce que, je dirais, il y a une semaine de cela, il y a eu les 16 jours d'activisme où nous avons pu mobiliser, je dirais, tout Tombouctou parce que le stade avait refusé du monde pour dire non aux violations faites aux femmes, pour dire non vraiment à toute forme de violence, à toute forme de discrimination à l'égard de nos, vraiment de nos femmes. Nous avons sensibilisé aussi dans le cadre de la paix avec toujours nos leaders religieux parce que, comme je l'avais dit, Tombouctou est une zone religieuse et culturelle. Donc quand on veut travailler, on ne met pas cette religion de côté. Parce que quand c'est le marabout qui dit que ça c'est comme ça, religieusement ça rentre dans la tête que c'est comme ça. Mmh. Voilà, mmh. Il y a cette culture qui est ici chez nous.
D'accord. Comme vous l'avez dit, hein, votre organisation, c'est l'organisation mère de toutes les associations régionales. Dites-nous aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les femmes de Tombouctou sont suffisamment outillées pour avoir des ressources financières, faire face à la gestion des ressources, des activités de revenus, des ressources financières?
Ok, merci pour cette question. Je dirais que les femmes sont outillées, mais pas suffisamment. Comme je l'avais dit dans mes propos passés, si je suis vraiment, mes capacités sont renforcées, les capacités des Fadi sont renforcées, mais il y a de ces femmes qui sont dans les zones reculées. Ces femmes aussi, leur voix compte. Et c'est ces femmes qui ont les plus belles idées même pour faire avancer un pays. Il suffit juste de les démarcher, aller les écouter et prendre leurs avis en compte pour travailler avec. Donc il y a vraiment des choses à faire. Ces choses à faire, c'est quoi? C'est trouver les moyens, comme vous dites, suffisamment outillés. Donc nous sommes outillés, mais pas suffisamment, d'autant plus qu'on a besoin d'aller jusqu'au niveau des zones les plus reculées. Pour parler avec ces femmes, les écouter, prendre leurs préoccupations en compte et essayer de travailler ensemble. C'est en ce moment qu'on va dire que les femmes sont suffisamment outillées.
Mmh. Est-ce que les femmes, vous l'avez dit, hein, que leur voix compte, est-ce que les femmes font confiance à leur capacité intellectuelle pour se faire entendre?
Alors, et quand on dit autonomisation même, ça commence par ça. Et il faut se faire confiance d'abord pour se lancer dans quoi que ce soit. La confiance en soi est la reine mère de toutes ces choses. Il faut se faire confiance et avoir la compétence. Vous m'excusez du terme si ça vexe, mais il y a certaines femmes qui refusent vraiment de briser la glace. Elles ont des très bonnes idées, mais elles refusent de briser la glace pour aller de l'avant. Et on a vraiment besoin de sensibiliser les stéréotypes, les pesanteurs socioculturelles. On a besoin vraiment de toucher ces femmes qui sont dans les zones les plus reculées. Elles ont juste besoin de sensibilisation. Moi, il y a 10 ans de cela, si vous me mettez dans un public, peut-être je vais m'asseoir et sortir sans rien dire. Mais aujourd'hui, si je rentre, ceux qui me connaissent, Aïwa, Fatal Moudou est venu parce que je sais que je vais poser des questions. C'est grâce à des sensibilisations que j'ai reçues, des précédentes vraiment grandes dames que je félicite. Donc, c'est celles qui sont dans les zones reclées aussi ont besoin de ces sensibilisations, ont besoin d'être aidées pour donner vraiment leur avis.
D'accord. Fadi, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à croire à votre capacité intellectuelle pour devenir, malgré les pesanteurs sociaux, culturels qui pèsent sur les femmes, présidente de l'association des femmes artisanes de paix?
Merci bien. C'est tout d'abord l'accompagnement de mes parents depuis le bas âge. Depuis l'éducation, c'est l'accompagnement de mes parents, précisément mon papa, qui est déjà lui-même est un leader. Et chaque fois, je me dis, il faut que j'étudie, il faut que je devienne comme lui, il faut que j'aide les autres, il faut que je m'inclique ses valeurs pour que moi aussi je puisse me relever. Et en plus de cela, il m'a toujours rassuré que dans la vie, tout échec est une leçon et que je devrais apprendre de tout et de tout le monde. Et chaque jour que Dieu fait, on doit apprendre. Et ça m'a beaucoup... C'est resté dans la tête, au fait. Et en plus de cela, j'ai eu confiance en moi, comme je vous l'ai dit, après l'assurance de mon papa, il y a aussi... j'ai été épaulée par mon mari qui m'a beaucoup aidée dans tout ce que je fais. Tout ce que les gens disent, ils ferment les yeux dessus. Si ce n'était pas le cas, je n'allais pas arriver aujourd'hui. Parce que moi, j'étudiais à Bamako, au lycée Askia Mohamed. De retour ici à Tombouctou, ce n'était pas facile. Une fois que j'ai eu le bac, je devrais faire l'EFSEG. Ce n'était pas du tout facile. Je suis revenue, il a payé les études pour que moi, je sois ce que je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment l'entourage qui peut favoriser l'autonomisation de la femme ou de la fille. Quand vous avez une fille qui a l'envie de percer, qui a l'envie d'être, il faut les deux. Il faut croire en elle. Parce que la confiance en soi, elle est là. Mais quand vous n'avez pas l'appui des uns et des autres, vraiment, vous risquez de ne pas devenir les objectifs que vous vous êtes fixés, de ne pas les atteindre.
Est-ce que les autres femmes manifestent vraiment leur désir de prospérer?
Oui, bien sûr, bien évidemment, toutes les femmes manifestent l'intérêt de prospérer, que ce soit les femmes au foyer, que ce soit les femmes sur le terrain, que ce soit les femmes analphabètes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes se disent, c'est pas parce que je n'ai pas étudié que je n'ai pas ma place dans la société. Beaucoup de femmes, quand on est en formation ou bien nous sommes en réunion, donnent leur point de vue parce qu'elles se disent que leur point de vue peut contribuer d'une part ou d'une autre. Et elles se sentent aujourd'hui libérées. Avant, quand moi j'étudiais, on nous dit chaque fois, et quand on dit faites des poèmes, faites des concours inter-écoles, beaucoup de filles refusent. Je perds du regard du public, je perds de mes cibles. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Beaucoup de filles ont émergé, beaucoup de filles sont conscientes que nous sommes tous individus. Devant vous, le public, je ne vais pas craquer parce que vous êtes des individus tout comme moi.
Mais comment inciter donc davantage les femmes à intégrer le circuit financier pour développer leurs activités économiques en renforçant leur autonomie?
Bon, c'est à travers des renforcements des capacités, sur la mobilisation des ressources, des renforcements des capacités sur les matières qu'elles transforment. Pour pouvoir innover ces matières, il leur faut plus d'expérience, il leur faut voyager. Quand on dit l'être qui a voyagé et celui qui a étudié, qui est le plus intelligent, les sages vont te dire que c'est celui qui a voyagé parce qu'il a parcouru le monde, il a vu et il a vécu. Parce que ce que vous voyez de vos propres yeux, c'est mieux que l'écrit que vous lisez parce que ça vous apporte une expérience de plus, c'est différent. Mais avec le renforcement des capacités, des gens, des experts qui sont là dans la mobilisation des ressources, dans l'innovation même de nos entreprises, ça va permettre à ces femmes de faire une bonne marketing et avoir vraiment les ressources nécessaires pour prospérer.
Dans la région de Tombouctou, quels sont les différents métiers dans lesquels les femmes arrivent à prospérer ou à avoir des formations?
Bon, c'est surtout la transformation agroalimentaire qui est là
qui est déjà là, mais qu'on essaye d'innover. On a apporté des petites touches pour que ça innove, pour que les gens qui viennent de l'extérieur sentent une particularité avec leurs produits qui sont là-bas. Ce sont nos produits locaux transformés en semis, en produits finis.
D'accord. Fatal Moudou, Mahaman, dites-nous, est-ce qu'à Tombouctou, il existe vraiment des centres d'apprentissage dans lesquels les femmes apprennent à prendre des métiers dans lesquels elles peuvent avoir des revenus?
Je dirais oui, même si certains centres ne sont pas formels. Je vais ajouter par rapport vraiment aux activités génératrices de revenus dans lesquelles les femmes arrivent à s'en sortir, les make-up. Il y a des femmes entrepreneurs qui sont dans ces cadres. Elles en sortent bien puisqu'elles-mêmes emploient d'autres femmes. Cela déjà constitue un plus pour l'économie. Il y a des centres où les femmes apprennent la transformation agroalimentaire. Il y a pas mal de femmes ici qui ont créé leur centre à elles-mêmes où elles invitent d'autres femmes à apprendre avec elles, que ce soit la coiffure, que ce soit les make-up, que ce soit la transformation agroalimentaire. Cela va donner un plus pour celles qui n'ont pas les moyens, parce que tout dépend du moyen aussi. Si vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider à entreprendre, c'est vraiment difficile. Et il y a les partenaires aussi qui viennent pour aider ces femmes-là dans leurs activités génératrices de revenus.
D'accord. À Tombouctou, on sait que Tombouctou aujourd'hui est une zone de production agricole par excellence. L'accès des femmes aux terres, est-ce possible à Tombouctou?
Alors, l'accès des terres, comme on l'a dit, dans les années, la femme n'avait pas vraiment accès au sol même. Et aujourd'hui, l'accès aux terres, grâce aux lois, il y a la loi d'orientation agricole, la loi 045, qui vraiment donne
30%.
Cette possibilité, c'est 15%, cette possibilité aux femmes et aux jeunes, s'il y a d'aménagement, d'avoir vraiment ces 15% pour les cultiver. Mais avoir ces 15% n'est pas suffisant. Il faut avoir le courage, l'engagement aussi de s'occuper de ces 15% pour que ça soit visible et que ça soit un plus sur l'économie de la région.
Est-ce que cette loi est appliquée à Tombouctou?
La loi, elle est appliquée, je dirais, d'autant plus qu'il y a eu des vulgarisations. Quand une loi est vulgarisée déjà, si les personnes pour lesquelles cette loi est prise, si les personnes cherchent ce droit, parce que ça devient directement un droit, si ces personnes vont vers ceux qui doivent octroyer ça, elles vont les avoir. Mais ici, à Tombouctou ville, les femmes rurales, c'est ces femmes-là qui se donnent plus pour l'agriculture, pour les terres, plus que pour les femmes qui sont les femmes citadines, je dirais. Ces lois sont appliquées, que ce soit 052, 045, 1325, ces lois et conventions aujourd'hui à Tombouctou, je dirais que ces lois-là sont respectées, même s'il y a des failles. Ces failles, c'est parce que certaines de nos femmes n'ont pas cette compétence de creuser, de bien creuser, pour comprendre que ça-là, ça m'appartient, quels sont les cheminements à suivre pour vraiment avoir ces lois-là.
Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Dites-nous, aujourd'hui, comment créer un environnement favorable à l'autonomisation économique des femmes avec un meilleur accès aux services sociaux, aux infrastructures économiques et aux marchés dans leur secteur d'activité?
Alors, merci bien pour la question. Pour créer cet environnement, il faut tout d'abord avoir confiance en soi. Ça, c'est la première des choses. Il faut avoir des partenaires. Il faut aussi les respects stricts de ces lois qui sont vraiment prises, qui favorisent l'épanouissement de la femme, que ce soit la loi 052, la 1325, la loi d'orientation agricole, et même la loi 027 qui est une loi pour les personnes en situation de handicap. Si toutes ces lois sont respectées, je pense que la femme en tant qu'elle va amener tout avec elle, d'autant plus qu'elle va bénéficier de tous ses droits. Il faut aussi que les partenaires viennent. Il faut que les partenaires viennent investir pour que ces femmes-là puissent sortir. Il y a des femmes qui ont de très bonnes idées, mais elles n'ont pas les moyens. politiquement aussi, il faut que ces femmes-là soient appuyées pour qu'elles puissent sortir et même être des candidatrices au niveau vraiment... être des têtes de liste pour être élus, que ce soit des députés, des maires, tout ceci-là, on a besoin de renforcement des capacités et plus d'appui de nos autorités. Certes, l'appui est là, mais il faut amener un plus.
D'accord. Fadi, quels sont les obstacles à lever pour que les femmes de la région de Tombouctou puissent être suffisamment autonomes?
Bon, de un, il faut d'abord l'accompagnement de nos maris, de nos frères, de nos pères. Ça, c'est la première des choses. Secondo, il faut vraiment plus de vulgarisation de ces lois, que ce soit la 050, la résolution 1325, la 2250, la 027, la 045. Il faut cette application stricte de ces lois pour que ces femmes puissent s'épanouir. En plus de ça, il faut le renforcement des capacités. Quand je dis renforcement des capacités, il faut le suivi. Quand vous faites le renforcement des capacités, il faut suivre la personne que vous avez renforcée. Savoir s'il a évolué d'un pas ou bien il a régressé. Certains font le renforcement des capacités, mais ils ne font pas le suivi du renforcement des capacités pour atteindre l'objectif de ce renforcement des capacités. En plus de cela, il faut l'engagement des femmes, le dévouement, le courage, parce qu'on peut t'attribuer toutes ces terres, mais sans ton courage, sans ton envouement, sans tes capacités, sans ton engagement, vraiment tu ne peux rien obtenir. Tu ne peux pas avancer. Il faut croire en soi, il faut s'engager, il faut s'investir pour que les femmes soient autonomes.
Est-ce que vous pensez que l'autonomisation des femmes, égalité 50-50 entre hommes et femmes, est-il possible à Tombouctou?
Bien sûr, c'est bel et bien possible. C'est bel et bien possible.
Comment y arriver alors?
Pour y arriver, il faut la communication. Comme je l'ai dit, quand la communication ne passe pas, rien ne pourra changer. Parce que de par la force, on ne peut rien changer. Mais de par la communication, on pourra tout changer. Et par la communication, la bonne communication. Parce qu'il y a communication, il y a la bonne communication. Tu ne peux impacter une personne que quand tu communiques très bien avec lui et tu l'invites. Parce qu'on ne peut pas obliger une personne à venir vers tes idées, mais on peut l'inviter à adhérer à votre idée.
Ainsi se referme ce grand dialogue en direct de Tombouctou. Nous recevons en tout cas des femmes pour parler de l'autonomisation de femmes. Le thème était à Tombouctou. Les femmes sont porteuses de solutions pour leur autonomisation. Je rappelle que nous avons tenté une représentante de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, mais nos tentatives sont restées vaines et nos invités étaient Fatal Moutou Mahamad, chargé de communication à la CAFO régionale de Tombouctou, Fadi Welet Mohamedine, présidente de l'association Femmes Artisanes de Paix. À la présentation, c'était Imrana Akilou Meiga, la régie vidéo et son Gagné Kanté et Adiaratou Traoré. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.